Chapitre 8. Quand le cheval hennit puis racla le sol avec ses sabots, Callan fit glisser ses mains plus haut sur les rênes, le plus près possible du mort, un moyen réputé infaillible pour calmer un équidé. L'animal n'aimait pas ce qu'il sentait. Il détestait ça autant que sa cavalière et peut-être même plus. Alors qu'elle attendait derrière Ulyssia et Cecilia, Callan flatta les naseaux du cheval afin de l'apaiser davantage. Une légère brise dans la frondaison faisait trembler les feuilles triangulaires des peupliers deltoïdes. Même à midi, la pénombre régnait sous les branches de ces grands arbres serrés les uns contre les autres. Pourtant, la journée était claire, avec un magnifique ciel bleu où dérivaient paresseusement quelques rares nuages blancs aux contours effilés comme ceux d'un morceau de coton. Lorsque la brise changea soudain de direction, soufflant dans le dos des voyageuses, cela n'eut pas pour seul effet de les rafraîchir un peu. Callan saisit cette occasion pour prendre une profonde inspiration. Du bout d'un index, elle essuya la sueur et la crasse qui s'accumulaient sous le collier en fer qui lui serrait le cou. Elle aurait donné cher pour prendre un bain ou au minimum sauter dans une rivière ou un lac. Poisseux de transpiration et souillé par la poussière de la route, ses magnifiques cheveux étaient tout emmêlés et son crâne la démangeait terriblement. Hélas, les sœurs se fichaient du confort de leur prisonnière et elles ne l'autoriseraient pas à se laver, même si l'occasion se présentait. Ce qu'éprouvait Callan ne les intéressait pas et de toute façon, elles se réjouissaient de ses malheurs. Pour elles, une esclave devait souffrir en silence. Qu'importaient les petits désagréments lorsqu'on n'était plus un être humain à part entière? Alors qu'elle attendait, Callan repensa à la statuette qu'elle avait abandonnée dans le jardin de la vie du seigneur Hall. Même si elle n'avait aucun souvenir de son passé, les traits de la femme restaient gravés dans sa mémoire. Il y avait une incroyable noblesse dans la posture de ce personnage et un formidable courage dans sa manière de défier les forces invisibles qui prétendaient la dominer. En matière de forces invisibles, Callan en connaissait assez long pour admirer le glorieux entêtement de la statue. Au sommet d'une petite colline boisée, Ulyssia, Cecilia et leurs prisonnières regardèrent Armina traverser le terrain découvert en contrebas. Il n'y avait personne d'autre en vue. Alors qu'elles ondulaient au vent, les hautes herbes évoquaient irrésistiblement les vagues d'une mer moutonneuse. Quand elle eut enfin atteint le sommet de la colline, Armina tira sur les rênes de sa jument qui s'immobilisa face aux trois autres voyageuses.
« Ils ne sont pas là !»
annonça-t-elle.
« Combien d'avance ont-ils sur nous ?»
demanda Ulyssia. Armina tendit une main derrière elle.
« Je ne suis pas allée beaucoup plus loin que ces collines-là, pour ne pas risquer d'être repérée par les sœurs de Jagang ou un de ces magiciens. Tout ce que je peux dire, c'est que les traînards et les civils qui suivent l'armée ont levé le camp il y a un jour ou deux. »
Lorsque la brise se calmait dans leur dos, l'odeur remontait aux narines des quatre femmes. Écœurée, Callan plissa le nez. Ulyssia sentit aussi la puanteur, mais elle n'eut aucune réaction. Bizarrement, les sœurs de l'obscurité ne semblaient pas affectées par la pestilence. Ulyssia se décida soudain à grimper sur le dos de son cheval.
« Allons voir ce qu'il y a au-delà de ces collines !»
lança-t-elle. Callan monta en selle et suivit les trois sœurs jusqu'au pied de la colline. Ses geôlières semblaient fort nerveuses, et ça ne manquait pas de l'étonner. En règle générale, elle se montrait à la fois impassible et téméraire, et voilà qu'elle faisait preuve d'une étrange prudence. Sur la gauche des cavalières, d'imposantes montagnes s'élançaient vers les cieux. Leur versant de roches grises étant trop abruptes, très peu d'arbres parvenaient à s'y enraciner, et leurs branches rachitiques faisaient davantage penser à des membres de squelettes qu'aux foisonnants attributs de végétaux en pleine santé. Dès qu'elle levait les yeux, Callan se sentait écrasé par la splendeur et la taille des pics au sommet couvert de neiges éternelles. Depuis qu'elles avaient quitté le palais du peuple, ces geôlières longeaient la chaîne en direction du sud, sans doute en quête d'un col ou d'une passe. Durant ce voyage, les sœurs étaient restées le plus loin possible des zones habitées. Callan donna un peu de mou à son cheval. Sur un terrain si accidenté, une succession de buttes et de collines séparées par des ravins, la progression n'était pas toujours aisée. Une piste plus praticable contournait sans doute ce secteur, mais les sœurs, fidèles à leur politique, évitaient au maximum les voies de communication balisées. Au milieu des hautes herbes, parmi le creux et les bosses de ce paysage désolé, quatre cavalières avaient toutes les chances de passer inaperçues. Avant que Callan ait pu découvrir ce qu'il attendait à un détour du chemin, l'ignoble puanteur de la décomposition lui agressa les narines au point qu'elle cessa presque de respirer. Au sommet d'une crête, elle vit enfin la cité qui se nichait au cœur d'une vallée. Comme pétrifiées, les voyageuses baissèrent les yeux sur les bâtiments calcinés et les rues désertes jonchées de cadavres de chevaux.
« Dépêchons-nous !»
ordonna Ulyssia.
« Nous allons emprunter pendant un temps la piste principale, de l'autre côté de la ville, afin de déterminer dans quelle direction ils sont partis. »
En silence, les quatre cavalières finirent de traverser les collines et entrèrent dans la cité dévastée. Apparemment, l'agglomération avait été construite tout autour d'un lacet du fleuve, à un endroit où se croisaient plusieurs routes commerciales. Deux ponts de bois permettaient de traverser, mais il ne restait du plus grand qu'une carcasse carbonisée. Alors que les voyageuses traversaient le plus petit en file indienne, Callan baissa les yeux sur l'eau. Des corps démesurément gonflés flottaient sur le dos au milieu des roseaux. Longtemps avant de les avoir vus, la prisonnière avait senti leur puanteur et aussitôt perdu tout intérêt pour une petite baignade. Une seule idée tournait en boucle dans sa tête, s'éloigner au plus vite de cet endroit. N'y tenant plus, Callan noua un foulard autour de son nez et de sa bouche. Cette protection s'avéra hélas inefficace. L'estomac au bord des lèvres, la prisonnière se demanda comment la pestilence pouvait être si forte. Elle eut très rapidement la réponse. Dans certaines rues latérales, on avait entassé des cadavres par centaines. Au milieu des humains, Callan aperçut des dépouilles de chiens et même de mules. Couchés sur le dos, les jambes raides, les pauvres bêtes étaient figées dans une pose à la fois pitoyable et grotesque. À l'évidence, on avait poussé les habitants dans ces ruelles étroites, histoire qu'ils ne puissent pas s'échapper. Puis on les avait méthodiquement massacrés. Presque tous les cadavres, humains ou animaux, avaient été égorgés ou éventrés. Des lances brisées saillaient encore du torse de certains morts, et d'autres avaient été criblés de flèches, mais la majorité des victimes, cependant, avaient été taillées en pièces. Callan remarqua qu'il y avait exclusivement des adultes parmi les morts. La plupart des bâtiments avaient fini de brûler. De la fumée s'élevait encore de quelques-uns, indiquant que la mise à sac ne remontait pas à très longtemps. Bien entendu, les bouchers avaient pillé la cité avant de la raser. Ça, c'était classique. Mais pendant l'incendie, ils s'étaient acharnés sur leur cible. Pas une seule porte ne tenait encore à ses gonds. Toutes les fenêtres étaient brisées et on était allé jusqu'à lacérer à coups d'épée le linge pendu sur de petits balcons. Sur certains d'entre eux, un cadavre finissait de pourrir. Sans doute celui d'un citadin qui avait cru malin de se cacher en hauteur. Sur les pavés, en plus des morceaux de bois arrachés aux entrées et des éclats de verre, des centaines d'objets familiers gisaient sous la lumière vive du soleil. Des accessoires vestimentaires, des chaussures, des fragments de meubles, des armes cassées, des roues de chariot aux rayons fracassés. Callan aperçut même une poupée aux cheveux blonds à moitié écrasée par les sabots d'un cheval. Après les avoir soigneusement examinés, les pillards avaient jeté dans les rues les articles qui ne leur semblaient pas dignes de figurer dans leur butin. Mais les véritables horreurs se tapissaient dans les bâtiments obscurs que longeaient les cavalières. Chaque fois qu'elle osait tourner la tête, Callan manqua vomir dans son foulard. Les cadavres qui se décomposaient dans les maisons éventrées n'avaient pas été exécutés, mais suppliciés. Comme pour s'amuser ou en apprendre plus long sur les mille et une façons de tuer, leurs bourreaux les avaient torturés et mutilés en prenant tout leur temps. Ici, il y avait de très jeunes adultes, souvent à peine sortis de l'adolescence. Pleins de fougue, ces malheureux avaient tenté de défendre leur maison ou leur boutique. Un cordonnier, reconnaissable à son tablier de cuir, avait été cloué par les poignets à la façade de son échoppe. Puis des archers l'avaient pris pour cible, le transformant en une pelote d'épingles géante et affreusement obscène. Détail ignoble, sa bouche et ses yeux étaient percés d'un projectile. Une manière de le rendre plus ridicule encore. En plus d'avoir servi de cible d'entraînement, le pauvre homme avait dû subir l'humour plus que douteux de ses meurtriers. Dans d'autres bâtiments, Callan vit les dépouilles de femmes violées avant d'être mises à mort. L'une d'elles était entièrement nue, à l'exception d'une manche de son chemisier, encore glissée à son bras. Lardé de coups de couteau, sa poitrine n'était plus qu'une infâme bouillie rougeâtre. Un peu plus loin, une adolescente, sans doute pas encore pubère, gisait sur une table, sa jupe enroulée autour des hanches. Après avoir pris son plaisir, ou avant, car savait-on jamais avec ses chiens, son bourreau l'avait égorgée, la décapitant à moitié. Se croyant drôle, il lui avait écarté les cuisses afin d'enfoncer un manche à balai dans l'écrin de chair qu'il venait de souiller de sa semence. Callan fut bientôt anesthésié par la succession d'atrocités qui défilaient devant ses yeux. Comment pouvait-on commettre des actes pareils et prétendre faire encore partie de l'humanité? Si fort qu'elle essaya, la prisonnière des sœurs ne parvenait pas à imaginer des hommes capables d'une telle cruauté. Aux vêtements que portaient encore la plupart des cadavres, on voyait bien qu'il s'agissait de civils, pas de soldats ni de miliciens. Pour avoir voulu défendre leur foyer et leur outil de travail, ces héros à jamais anonymes avaient été froidement et méthodiquement réduits en bouillie. Alors qu'elle passait devant un petit bâtiment, Callan vit ce qu'elle redoutait depuis le début. Le charnier des enfants. Les cadavres, en majorité des bébés, étaient empilés au pied d'un mur de briques. On eût dit des feuilles mortes collectées par un balayeur au milieu de l'automne. N'était un terrible détail. Il s'agissait d'êtres humains qui auraient encore eu toute une vie devant eux. Des taches rouges sur le mur marquaient les endroits où on leur avait fait éclater le crâne. À l'évidence, les tueurs avaient là encore fait preuve d'imagination et de méthode. Et qui sait s'ils n'avaient pas organisé des concours, offrant une outre de vin à celui qui ferait exploser comme une noix le plus grand nombre de petites têtes. En traversant la ville, Callan vit d'autres endroits où les nourrissons et les jeunes enfants avaient péri pour offrir un peu de distraction aux pillards. Bizarrement, releva Callan, et il y avait assez peu de femmes parmi les victimes. Cela dit, toutes celles qu'elle vit étaient nues et mutilées, à part quelques fillettes et une poignée de vieilles femmes. Luttant pour respirer malgré la boule qui s'était formée dans sa gorge, Callan essuya ses yeux embués. Elle aurait voulu hurler, mais il lui sembla plus sage de s'en abstenir. Chevauchant en silence, les trois sœurs ne semblaient pas plus remuées que ça par le charnier. Soucieuses de leur sécurité, elles sondaient les environs en quête d'une menace et n'accordaient que des regards distraits aux suppliciés. Lorsque la petite colonne sortit enfin de la cité pour s'engager sur une route en direction du sud-est, Callan éprouva un tel soulagement qu'elle en eut les larmes aux yeux. Hélas, elle n'en avait pas fini avec l'horreur. Tout au long de la piste, à intervalles irréguliers, des cadavres de jeunes hommes et d'adolescents s'entassaient dans les ravins. Des fugitifs sommairement exécutés pour avoir tenté d'échapper à leur destin, de courageux jeunes gens rétifs à l'esclavage, abattus pour l'exemple, ou simplement afin d'assouvir la soif de sang de leur bourreau. Le front en feu, Callan avait de plus en plus la nausée. Était-elle malade? Se balancer sur sa selle n'arrangeait pas son envie de vomir, et la puanteur des cadavres qui la poursuivaient sur la piste aggravait encore les choses. Mêlée à la senteur âcre de sa sueur, cette pestilence saturait ses vêtements, la condamnant à la garder dans le nez pendant des jours et des jours. Les sangs glacés, Callan se demanda si elle réussirait jamais à dormir sans faire de cauchemar. La cité dont elle ignorait le nom avait été rayée de la carte du monde. Il n'y avait pas un survivant, et il ne restait pas un objet de valeur intact. En revanche, il devait y avoir des survivantes. C'était la seule explication au petit nombre de femmes qui figuraient parmi les victimes. Les plus jeunes et les plus belles avaient été enlevées par les pillards. Comme les autres, elles finiraient atrocement mutilées après avoir été transformées en objets de plaisir. Leur calvaire serait simplement plus long que celui de leurs sœurs. Devant les voyageuses, à perte de vue, la plaine et les collines qui la flanquaient semblaient avoir été labourées par des dizaines de milliers de roues de chariots et de semelles de bottes. Les herbes piétinées et arrachées ne repousseraient pas avant longtemps. Ce témoignage du passage d'une force incroyablement nombreuse avait quelque chose de plus horrifiant encore que le charnier de la cité. Une armée de cette importance pouvait se targuer d'être l'égale des plus grandes catastrophes naturelles, avec l'avantage sur les tempêtes et autres incendies de pouvoir se déchaîner à volonté. Plus tard dans la journée, à l'approche du sommet d'une colline, les sœurs manœuvrèrent savamment pour avoir le soleil dans le dos, afin qu'un observateur éventuel soit ébloui et ne les distingue pas. Tirant sur les rênes de sa monture, Ulyssia se dressa sur ses étriers, sonda le terrain, puis fit signe à ses compagnes et à la prisonnière de mettre pied à terre. Après qu'elles eurent attaché leur monture au tronc d'un pin fendu en deux par la foudre, les trois sœurs continuèrent à pied, et Ulyssia ordonna à Callan de les suivre en silence. En haut de la butte, accroupies dans les hautes herbes, les quatre femmes virent enfin la tornade qui avait dévasté la cité fantôme. Au premier coup d'œil, la masse sombre qui avançait dans le lointain aurait pu passer pour une mer aux eaux boueuses. À y regarder de plus près, il s'agissait d'une marée humaine. Charriée par le vent, les cris, les rires et les jurons lancés par des milliers de gorges venaient mourir aux oreilles de Callan. Par sa simple masse, cette horde serait venue à bout des défenses de n'importe quelle ville. La meilleure milice, voire le plus compétent des régiments, n'aurait pas tenu une heure face à une telle déferlante. Quand ils attaquaient en si grand nombre, les plus médiocres soldats se révélaient impossibles à arrêter. Cette armée semblait être une masse informe d'êtres privés de volonté et de conscience. Mais il ne fallait pas la voir ainsi, et Callan le savait. Ces hommes n'étaient pas nés monstrueux. Tous avaient un jour été un nourrisson impuissant, blotti dans les bras de sa mère, puis un petit garçon au cœur débordant d'espoir, de rêve et d'angoisse. Un seul individu, mentalement dérangé, pouvait en grandissant devenir un tueur impitoyable que rien n'était susceptible de racheter. Dans le cas d'une telle multitude, cette possibilité était exclue. Chacun de ces hommes tuait parce qu'il croyait à une cause sacrée. Ayant délibérément opté pour le meurtre, ces bouchers adhéraient à un système de pensée qui justifiait jusqu'à leurs pires exactions. La traversée du charnier continuait à hanter Callan. Elle revoyait chaque scène, reconstituant dans ses moindres détails le calvaire de toutes les victimes. Dans la cité, ce n'était pas seulement la puanteur qui l'avait empêché de respirer. Poussée à l'extrême, l'horreur vous enivrait à la manière d'une âcre piquette. Le souffle court, la tête tournant comme une toupie, Callan avait lutté contre le désespoir qui l'envahissait. Depuis qu'elle était sortie de la cité, elle ne parvenait plus à faire taire la voix qui, dans sa tête, proclamait la mort de l'espoir et de l'amour. L'avenir des hommes et des femmes, désormais, était gravé dans le marbre de l'abominable massacre que les voyageuses laissaient derrière elles. Dès qu'elle avait aperçu les coupables de ce désastre, Callan avait senti la compassion, le chagrin et la résignation se volatiliser en un éclair de son âme. Face au boucher, elle éprouvait une rage comme elle n'en avait jamais connue, ni chez elle ni chez les autres. Animée par une telle haine, un être humain devenait en quelque sorte invincible. Portée par le souvenir des vieillards éventrés, des bébés sans tête et des femmes violées, Callan n'avait plus qu'un objectif. Laver dans le sang des bourreaux le massacre des innocents. Cette fureur qui dépassait tout investissait lentement l'âme et le corps de Callan, les altérant irréversiblement. À cet instant, elle se sentit la sœur d'élection de la statuette qu'elle avait dû abandonner sur la pelouse du jardin de la vie. Cette femme était l'incarnation de la combativité, ni plus ni moins, et de la bravoure.
« Eh bien, c'était l'armée de Jagang, » dit Cecilia. « Nous en avons la preuve à présent. »«
Oui, »
acquiesça Armina.
« Et pour gagner Casca, nous allons devoir traverser les lignes de l'empereur. »
Ulyssia désigna les pics sur la gauche de ses voyageuses.
« Avec ses chariots, ses chevaux et toute son intendance, l'armée de Jagang ne peut pas s'aventurer dans les cols étroits de cette chaîne de montagnes. C'est différent pour nous. » À la vitesse où se déplacent nos ennemis, nous aurons largement le temps de traverser, d'atteindre Casca, puis de retourner en Dara, tout ça en gardant une énorme avance sur eux.
« L'armée Dara ne pourra rien faire contre une telle horde, » murmura Cecilia.
« Et alors ?»
répliqua Ulyssia.
« En quoi ça nous concerne ?»«
Il y a notre lien avec le seigneur Hal, »
rappela Armina.
« Je sais, mais ce n'est pas nous qui l'attaquons. »
répondit Ulyssia.
« Jagang tente de tuer Richard Rall. Nous ne lui voulons aucun mal.
Lorsque nous contrôlerons le pouvoir d'Orden, nous mettrons une force inouïe à la disposition du maître de Dara. Cela suffira à préserver le lien et à nous garder hors de portée de Jagang. L'empereur et son armée ne nous obéissent pas, et nous ne sommes pas responsables de leurs exactions. Au palais du peuple, Kalan s'était demandé à quoi pouvait bien ressembler le seigneur Ral. Même si elle ne l'avait jamais rencontré, elle avait peur pour lui et pour tous ceux qui combattaient à ses côtés.
« Mais nous serons très embêtés si ces soldats arrivent avant nous à Casca, »
dit Cécilia.
« Tovi nous y attend, c'est déjà important. De plus, c'est le seul site central qui nous soit accessible pour l'instant. »
Ulyssia eut un geste nonchalant.
« L'armée de l'ordre est très loin de Casca. En prenant un raccourci, nous la distancerons sans problème. »
« Tu es sûr que ces hommes n'accéléreront pas le rythme ?»
demanda Armina.
« Jagang doit avoir hâte de porter le coup de grâce au seigneur Ral et à ses troupes. »
Ulyssia eut un rire de gorge.
« L'empereur sait que l'armée d'Aran est coincée. Le seigneur Ral n'a plus le choix. Il doit tenir son terrain et se battre. Les dés sont jetés et l'issue n'est plus qu'une question de temps. Celui qui marche dans les rêves n'a aucune raison de se presser. » De toute façon, c'est impossible quand on commande une armée si énorme. Et même si elle pouvait marcher plus vite, elle aurait toujours plus de distance à couvrir que nous, ce qui nous assure un avantage décisif. Allons, ne t'inquiète pas. L'armée de Jagang n'a pas changé depuis l'époque, des décennies en arrière, où elle s'est lancée à la conquête de l'Ancien Monde. C'est un fléau qui avance toujours au même rythme, à l'image des saisons, impossibles à arrêter, mais attachées à leur majestueuse lenteur.
Ulyssia fit un clin d'œil salace à ses deux complices.
« Avec la belle récolte de femmes qu'ils viennent de faire, les soldats de l'ordre auront d'excellentes raisons de traîner en chemin. »«
Ne parle pas de ces horreurs !»
souffla Armina, soudain blanche comme un linge.
« Jagang et ses soudards ne se lassent jamais de violer leurs prisonnières !»
dit Cécilia, un peu verte. Armina s'empourpra soudain de colère.
« Je donnerais cher pour pendre Jagang haut et court et m'amuser un peu avec sa virilité. »«
Nous aimerions toutes châtier ces hommes, »
convint Ulyssia.
« Mais pour l'instant, nous avons mieux à faire. »
Elle eut un rictus mauvais.
« Mais un jour, qui sait ?»
Les yeux rivés sur la horde qui s'éloignait, les trois sœurs se turent un moment.
« Très bientôt, »
dit enfin Cécilia.
« Nous ouvrirons les boîtes d'Orden et nous aurons assez de pouvoir pour manipuler Jagang comme une marionnette. »
Se détournant, Ulyssia partit d'un pas décidé rejoindre les chevaux.
« Pour ouvrir ne serait-ce qu'une boîte, nous devons d'abord retrouver Tovi et l'artefact qui nous manque. Qui peut dire ce que Tovi est allé faire à Casca ? La réponse à cette question est vitale, ne l'oubliez pas. Allons. » Chassez de votre esprit Jagang et sa maudite armée. C'est la dernière fois que nous la voyons, mes sœurs, jusqu'au jour où le pouvoir d'Orden nous permettra de nous amuser un peu avec l'empereur avant de le réduire en bouillie.